JMFM.
JMFM, voyage des lycéens vers de nouvelles vibrations musicales.
JMFM.
Pour découvrir et redécouvrir des musiques multigénérationnelles. JMFM.
On vous embarque pour léviter sur nos ondes locales.
Retrouvez-nous
mercredi
de midi et demi jusqu'à 14h au CDI.
JMFM.
Rejoignez-nous.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du célèbre groupe que tout le monde connaît, les Beatles. Le groupe le plus connu, de rock le plus connu sans doute de la musique, qui a été créé à Liverpool en 1957-58, composé de George Harrison, de Ringo Starr, de Paul McCartney et de John Lennon. D'abord, on peut dire que John Lennon, il est né dans un milieu assez aisé. C'est vraiment le plus aisé du groupe. Après, il y avait George Harrison, qui était un peu plus pauvre, et surtout Ringo Starr, qui est né dans le quartier le plus pauvre de Liverpool, et qui a raté beaucoup d'écoles dans son enfance, et il vivait dans une petite maison, etc. Et ensuite, ils ont créé donc le groupe, ça s'appelait à la base les Quarrymen, mais ils ont décidé de les renommer, donc c'est un petit jeu de mots entre les Beatles qui veut dire... les scarabées et to beat, le verbe anglais. Ils ont du mal à s'importer tout d'abord en Angleterre au tout début, donc ils ont vraiment commencé leur carrière en Allemagne, à Hambourg. Ensuite, ils sont retournés en Angleterre. Leur producteur était Brian Epstein. C'est lui d'ailleurs qui les a incités à porter des cravates et des chemises et tout, pour sembler plus présentable, parce qu'à la base, ils portaient des vêtements un peu plus rebelles et tout. Donc, dans l'Angleterre de l'époque, avec les mœurs de l'époque, ça passait pas trop. Ensuite, leur premier vrai hit, c'était avec l'album Please Me, donc leur premier album, en 1962, qui a été numéro 2, il me semble, en Angleterre. L'un des premiers singles qui a été connu, c'était She Loves You. Ensuite, ils ont fait With the Beatles, ils ont fait le film et la bande originale Hard Day's Night en 1963. Ils ont fait le film Help en 1964 avec une chanson connue notamment qui s'appelle Yesterday. D'abord, donc là, c'était plutôt du rock. Après, à partir de Help, ils sont plus passés vers de la pop. C'est notamment vers Rubber Soul, l'album de 1964, qu'ils ont commencé à faire de la musique un petit peu psychédélique, sous l'influence des drogues, notamment de la marijuana. Paul McCartney s'est fait arrêter plus tard et est allé en prison en 1980 pour avoir importé de la marijuana en Royaume-Uni. Ils ont commencé à faire du psychédélisme, etc., comme Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, le premier album concept de l'histoire de la musique, où il y a eu des effets, vraiment. Ensuite, il y a l'album blanc, il y a Revolver. L'album blanc qui marque plus des chansons un peu moins psychédéliques, mais un peu plus politiques, peut-être, comme Born to Your Successor, Helter Skelter, un peu plus rebelle, un peu moins gentillé que leurs chansons habituelles. To the bottom, I go back to the top of the slide. Well, stop. You ain't no-
top of the slide, and I stop and I turn and I go for a ride, and I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah, yeah. But do you, don't you want me to make you?
Un peu plus rebelle, mais pas aussi rebelle que les Rolling Stones par exemple, qui étaient leurs principaux, je dirais pas ennemis, mais c'est pas vraiment ennemis, mais concurrents. Et d'ailleurs, une fois, John Lennon a lancé une petite pique en disant que les Beatles sortaient une chanson et les Rolling Stones faisaient la même 6 mois plus tard. C'était pas vraiment vrai, mais c'est vrai que les Rolling Stones s'inspiraient beaucoup des Beatles, mais néanmoins ils étaient amis.
How do you compare your group with the Beatles?
I don't know. How do you compare with the Beatles? I don't compare at all. You know, there's no point.
Well, let's get right down to brass tacks. Do you think you're better than they are?
What? You know, it's not the same group, so we just do what we want and they do what they want, and there's no point in going on and comparing us. So you can prefer us to them or them to us. Mm. It's just diplomatic, you see.
Very diplomatic, and I don't want to labour it, but do you feel you do what you want to do better than they do what they want to do?
Yes. Probably. I don't know. I don't know what they want to do, you see. Very diplomatic.
Il y a eu une controverse aussi qui a fait beaucoup couler d'encre et brûler des livres au sud des États-Unis, qui était une région qui est toujours très chrétienne, catholique. C'est le moment où John Lennon a dit que les Beatles, à ce moment-là, étaient plus célèbres que Jésus. Ce qui fait qu'ils ont été interdits de se présenter dans plusieurs États des États-Unis. Et beaucoup de jeunes gens qui étaient fans à l'époque, ils se sont mis à détester les Beatles, notamment un jeune évangéliste un petit peu tordu d'esprit qui s'appelait Mark David Chapman. Ensuite, donc, ils ont sorti le White Album, les Sgt. Pepper. Il y a une autre controverse qui est là totalement infondée, et c'est plus une théorie du complot, je dirais. Je dis ça parce que c'est assez marrant quand même de la citer. C'est une théorie du complot qui dit que Paul McCartney est décédé et qu'ils l'ont remplacé à un moment. C'est totalement débile, mais... et qu'ils l'auraient remplacé pour pas créer de déprime chez les fans des Beatles, pour pas créer une vague de suicides, etc. Notamment, il y a des gens qui pensent que si on met des morceaux à l'envers, par exemple, Yam the Walrus du Magical Mystery Tour, on pourrait... apercevoir des phrases comme Paul is dead ou des choses comme ça, c'est stupide. Mais voilà. Ou alors le fait que la personne qui apparaît sur la photo de Abbey Road n'est pas vraiment Paul parce qu'il est gaucher ou je sais pas quoi. C'est la seule personne qui est gaucher sur la photo. C'est complètement stupide. Je vais arrêter de parler de ça.
Operation T-shirt, stupid bloody Tuesday man. You've been a naughty boy, you let your face grow long.
Ensuite, ils ont donc sorti Abbey Road, qui est leur album le plus connu, je pense, avec notamment la célèbre photo qui reprend le nom Abbey Road, c'est le studio dans lequel ils ont créé toutes leurs chansons. Avec la chanson notamment Here Comes the Sun, qui est très connue. Et ensuite, ils ont sorti Let It Be, donc leur dernier album. Et ensuite, ils se sont arrêtés parce qu'ils avaient des égos, je pense, il y avait plusieurs égos énormes. Et notamment la présence de Yoko Ono, la deuxième femme de John Lennon, qui était beaucoup présente à la fin de leur carrière et qui était même trop présente selon les trois autres membres du groupe. Et donc, sans le vouloir, elle a un petit peu une des causes qui a fait que les Beatles se sont séparés. Et notamment aussi la mort de leur ami et producteur Brian Epstein en 1967. Je pourrais dire aussi qu'ils ont sorti beaucoup de singles, notamment, comme j'ai dit au début, She Loves You, mais aussi The Ballad of John and Yoko, qui n'est pas très connu. Notamment aussi Hey Jude, la célèbre chanson Hey Jude. Le double single Penny Lane et Strawberry Fields Forever en 1967. Je peux finir en disant que Paul McCartney et Ringo Starr continuent toujours leur carrière. D'ailleurs, Paul McCartney a fondé un nouveau groupe à un moment. Vraiment, ils ont une carrière très, très bonne. George Harrison aussi avait une belle carrière jusqu'à sa mort au début des années 2000. Tout comme John Lennon, vers la fin de sa vie, il a arrêté un petit peu, mais il est mort à 40 ans en 1980, lorsqu'il avait pris une retraite anticipée, mais là, il était en train de refaire un album avec Yoko Ono. Il avait un fils qu'il avait eu avec Cynthia Lennon, sa première femme, au début des années 60. Et il avait sa femme, donc Yoko Ono. Et il a été assassiné devant son immeuble en rentrant chez lui à New York. Voilà. Le dernier morceau qui est sorti l'année dernière, là, No One Then, c'est un morceau qu'avait écrit John Lennon, mais qui n'avait jamais été fait à l'époque. Et dans lequel avait joué aussi George Harrison. Et John Lennon avait chanté. Ils ont donc décidé de terminer le morceau, Ringo Starr et Paul McCartney, l'année dernière, grâce aux nouvelles technologies, car ils ne pouvaient pas le faire avant, ils n'ont pas réussi, et Ringo Starr trouvait que c'était mauvais. Donc là, avec les nouvelles technologies, avec les intelligences artificielles, etc., ils ont réussi à le terminer. Et il est sorti à la fin de l'année dernière. C'était Quentin pour la radio JMFM du lycée Jean Moulin de Pézenas.
Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le nouvel opus de Crazy Frog, un groupe qui s'est distingué depuis 14 ans en faisant plus de 4,3 milliards de vues sur YouTube avec leur musique Axel F, où l'on voyait une petite grenouille danser sur une moto. Alors d'abord je vais commencer par vous raconter l'histoire de Crazy Frog. Donc en fait Crazy Frog c'est un groupe qui a été initié en 1997. En fait c'est un Suédois qui s'appelle Daniel, qui a posté en 1997 des sons de lui en train d'imiter une motocyclette. Du coup, en 2003, un autre Suédois, qui s'appelle Eric, il a repris le son et il a mis une grenouille en appelant cette vidéo, du coup, la chose énervante. Et juste après, il y a une société, donc la société Jamba, qui a récupéré cette vidéo et qui a vu le personnage de Eric et qui a proposé de continuer à faire ce genre de choses sous le nom de Crazy Frog. Donc du coup, derrière Crazy Frog, c'est quelqu'un qui s'appelle Eric, un Suédois. Donc, le nouveau titre, il s'appelle Funny Song. Après un an d'activité, on y revoit encore une fois une petite grenouille en train de danser sur une motocyclette, comme le clip d'il y a 14 ans. Et c'est un thème plutôt, du coup, funny, où on voit rien que dans le clip plusieurs choses qui sont assez surnaturelles et assez fantastiques. Quand l'on voit ces statistiques sur YouTube, typiquement, cette musique a fait 20 millions de vues du coup en 2 mois. Quand on voit du coup sa musique en 14 ans, elle a fait 4,3 milliards de vues, et on se rend compte que ça a marqué toute une génération, surtout la musique Axel F, qui est connue par tout le monde. On pourra mettre un extrait à la limite. Et toute la génération, donc entre 2000 et 2010, le connaît, parce que du coup, ils sont nés avec Crazy Frog. Et je pense que c'est une musique du temps de la techno, etc., qui a beaucoup marqué l'esprit et qui a fait surtout une fanbase autour de Crazy Frog et qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Moi, du coup, ma musique préférée, c'est Axel F, parce que c'est la plus connue. Et c'est vraiment celle qui a marqué toute la génération. Et parce qu'elle est très spéciale, elle sort beaucoup du commun et je trouve que elle ressort bien les côtés techno des années 2007-2008. C'était Aloïs pour JMFM en partenariat avec Radio Pays d'Héro et je vous laisse avec Léa Bourralon. Non, Bourralon.
Tu dis rien.
C'était Aloïs pour JMFM.
Et
c'est tout.
C'est tout.
à tous, c'est Léa. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire découvrir un groupe qui me tient particulièrement à cœur. C'est le groupe La Femme. La Femme, c'est un groupe que j'écoute depuis 10 ans à peu près. Donc, j'écoutais ça, j'avais 8 ans. Et encore aujourd'hui, je suis dans le même trip quand j'écoute leur musique. C'est-à-dire un trip complètement psychédélique. Donc La Femme, ça a commencé à Biarritz en 2010 avec Marlon et Sacha qui se sont rencontrés au collège et qui ont commencé à faire de la musique ensemble. Et après ça, ils ont rajouté des musiciens et musiciennes et chanteuses pour nous délivrer 5 putains d'albums. Le premier album, Psychotropical Berlin, qui est sorti en 2013, il a quand même eu la récompense de la révélation de l'année aux Victoires de la Musique en 2014, donc c'est pas rien quand même. Au niveau des styles, c'est un peu un mélange de surf musique, de musique synthétique, rock alternatif ou de musique un peu psychédélique, parce qu'il y a vraiment une très grande recherche au niveau des sons utilisés. Je trouve que c'est vraiment l'un des buts de La Femme, c'est de nous plonger un peu dans la vague de Biarritz, un peu pour surfer entre les vagues et se laisser porter dans leur trip. Donc on a des sons complètement barrés au niveau des synthés. Au niveau de la guitare aussi, on a du délai, de la réverb, un son assez psychédélique. Et une batterie, généralement, il y a un peu de disto sur la caisse claire, un truc un peu crade. Et généralement, les patterns, ils sont assez répétitifs, on va dire, et assez simplistes. Mais ils servent super bien au morceau parce que ça rentre dans une boucle. Et c'est ce côté-là que j'aime bien, c'est ce côté hypnotisant. C'est qu'on tourne, on tourne et on ajoute plein d'éléments et puis ça fout le gros bordel, quoi. Et c'est vraiment génial. Et on a aussi les voix qui sont hypnotisantes parce que on a plusieurs chanteurs et chanteuses qui chantent en même temps. Donc la voix principale pour le groupe La Femme, c'est Clémence. Mais dans tous les albums, en fait, il y a plusieurs voix qui chantent en même temps la même chose. Donc on a vraiment une recherche aussi au niveau du mix qui donne une voix assez spéciale parce qu'on ne sait pas s'il y a plusieurs personnes, on n'arrive pas trop bien à comprendre, mais c'est ça aussi le truc, c'est de se laisser porter par l'inconnu. Je pense notamment à la musique Paradigme, donc qui vient de l'album Paradigme sorti en 2021. C'est le troisième album. Pendant la nuit, les paradigmes s'effacent, les masques tombent pour célébrer le néant et la folie. Dans cette énigme qu'on appelle la vie, j'ai envie de courir et de pleurer. On a vraiment un mix hyper intéressant au niveau des voix. On capte pas trop ce qui se passe, mais on se laisse porter et on se laisse aller vers leur but un peu. Je sais pas si c'est vraiment leur but, c'est de nous faire triper, de nous faire voyager, ou si c'est nous, on doit essayer de s'inventer un monde, etc. pour triper. Mais enfin, en tout cas, je me laisse porter, quoi. Il y a un son que j'aime beaucoup, c'est Anti-Taxi. Donc ça montre un peu l'expérimentation des sons et le côté assez entraînant des boucles. Et là, on n'a pas vraiment de démonstration au niveau de la voix, mais c'est surtout au niveau des boucles, des expérimentations des sons. Donc je vous laisse avec un extrait de Anti-Taxi qui est sorti sur Psychotropical Berlin, le premier album en 2013. maintenant, on revient avec le deuxième album qui est sorti en 2016, donc Mystère. Dans cet album, il y a une musique qui me tient particulièrement à cœur, c'est Mycose. Donc là, on a vraiment un côté déjanté au niveau des paroles, parce qu'on nous parle de mycose et en même temps, on nous parle de planètes, de Jupiter, etc. C'est vraiment le côté barré du groupe, même au niveau du clip, c'est hyper intéressant parce que la mycose, elle est assimilée à une boule complètement dégueu qui est accrochée au pied de Clémence, comme en prison un petit peu, avec des gars un peu bizarres qui la suivent et tout. Donc c'est vraiment un truc assez spécial. Mais je trouve qu'il y a une guitare vraiment qui prend au trip, c'est quand vraiment il y a le refrain et que ça se lance. Ça démarre pas sur le premier temps, mais ça... Je sais pas, ça met un truc vraiment, je saurais pas vraiment expliquer ce que c'est, mais le son il est incroyable. Et surtout au niveau du solo vers la fin, il y a vraiment un truc hyper triomphant. Et c'est pas un solo vraiment dingue, on va dire, au niveau de la technique, mais au niveau du son, c'est incroyable d'avoir réussi à faire sonner sa guitare comme ça. Et donc ça, j'aime beaucoup. Et on a aussi le côté de la voix hypnotisante où c'est pas vraiment du chant, mais c'est parler, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de notes, on va dire, dans le chant, mais c'est assez parlé, c'est assez posé, on va dire, et ça, j'aime bien, comment il pose les textes. Donc, je vous laisse avec un extrait de Mycose. Pour finir, on termine avec mon morceau préféré, donc c'est Cool Colorado, qui est sorti dans Paradigme en 2021. Et ce morceau, c'est vraiment mon préféré parce que on a vraiment l'impression d'être sur une vague et de vraiment surfer. On se laisse vraiment porter par la guitare avec ce chorus et ce flanger. Enfin, je sais pas, il y a vraiment une recherche au niveau du son de guitare et tout, c'est hyper cool. On est vraiment porté par le groupe. Et même le clip, il est assez marrant parce qu'on a la caricature de la star américaine qui se prend pour je sais pas qui. Et toutes les femmes autour qui l'admirent un petit peu. Sur le clip, c'est Sacha, je crois, qui est là avec une perruque blonde. Ça me fait plutôt marrer. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce morceau. Et il y a aussi une démonstration pareille au niveau de la voix qui se pose. On a vraiment l'impression d'être, si je peux me permettre, un peu défoncé. Un peu voilà, le côté psychédélique, mais tout en restant dans le monde réel. Mais avec eux, on voyage quand même quelques minutes pendant la musique. On voyage et on redescend sur Terre et on se dit que ce serait cool quand même de vivre tous les jours avec la femme. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous laisse avec le morceau Cool Colorado. C'était Léa pour JMFM. Salut.
Sur tes bancs et respirer le vent ici. La vie est calme, les anges me caressent. Et je fume dans les rues sans le stress. Un peu comme à l'ancienne, loin de mes problèmes. Là où on vient, juste sentir la chaleur. Et sentir la douceur du vent des montagnes. Sweet Colorado, la radio joue un morceau de cowboy. Sweet Georgia boin dans les cheveux. Je fume une cigarette papier maïs au coin de la sixième.
rejoindre l'ouest. Je pose mes valises chez Lizzie à Denver City. C'est là que le train me laisse.
C'est Théo Esquire de Ménager, et aujourd'hui, je vais vous faire une petite chronique sur la musique et les jeux vidéo. La musique dans les jeux vidéo, on connaît tous. Quel jeu n'a pas de musique? Mais la musique dans les jeux, est-ce que ça a toujours existé en soi? Pour répondre à cette question, revenons au tout début du jeu vidéo, en 1970. En 1970, arrivent les premières bornes d'arcade, qui sont équipées d'enceintes et sont conçues pour attirer l'attention. Il y avait des musiques qui étaient présentes, mais souvent c'était les musiques que des propriétaires des bornes d'arcade qui n'avait justement aucun rapport avec le jeu. En 1975, un jeu nommé Pong, produit par Atari, produisait 3 sons spécifiques qui étaient au jeu. 3 bips. Un bip quand on touchait un mur avec la balle, un bip quand on touchait la balle avec la plateforme, et un bip quand on marquait un point. Il s'agit là du premier jeu avec une bande son pour son jeu. Plus tard, on voit arriver d'autres jeux sur d'autres consoles qui ont des bandes son utilisant des musiques connues et des bruitages. C'est seulement en 1978 qu'on voit le jeu avec sa propre son. Il s'agit de Space Invader sur borne d'arcade. Mais LE jeu le plus connu pour avoir sa propre bande de son est The Legend of Zelda sur 1987 sur NES. La musique de Kondo, celui-ci derrière la bande-son du jeu, rencontre un tel succès qu'il enregistre avec le Tokyo String Ensemble et la joue en concert à Tokyo en 1987, donc la même année, donnant naissance au premier concert de musique de jeux vidéo. Dans la même année, on voit un jeu sur NES, toujours, qui est Danse Aerobic, et il s'agit du premier jeu de rythme. Puis se suit une farandole de jeux avec sa propre bande-son. Et nous voilà à notre époque, où la musique dans les jeux est presque partout. Jeux de rythme, de tir, de voiture et même d'horreur. La musique est là pour mettre une ambiance et pour accompagner le joueur. Par exemple, certains jeux vont servir de la musique pour faire passer des messages. Je prends par exemple un certain jeu qui vont mettre des musiques assez fortes quand on a un grand boss. Par exemple, la série des Bloodborne, donc Skyrim et tout ce qui est derrière. S'ensuit des reprises orchestrales de certaines musiques, par exemple avec les Monster Hunter, qui est très connu, et surtout les Legend of Zelda avec leur anniversaire des 25 ans et des 30 ans. Certaines de ces musiques sont reprises en concert avec des personnes en tant que public. Et je pense souvent au Splatfest au Japon, qui reprennent les musiques du jeu Splatoon avec les personnages iconiques du jeu. Je vous laisse avec mon petit coup de cœur de toutes les musiques de jeux vidéo que j'ai pu entendre. Il s'agit d'une reprise orchestrale de la bande-son d'un des jeux assez connus, je dis ça, je dis rien, du jeu Tetris. C'était Théo pour JMFM, en collaboration avec RPH.
Bonjour à tous, ici Vassili pour JMFM avec RPH. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une artiste dont on n'arrête pas d'en entendre parler depuis un certain moment. Elle a été nominée 5 fois aux Victoires de la Musique. Il s'agit de Zao de Sagazan, une jeune artiste qui a aujourd'hui 23 ans. Elle est née en 1999 à Saint-Nazaire. Elle pratiquait beaucoup la danse de manière très intensive. Mais c'est en découvrant le piano qu'elle trouve un moyen d'exprimer et d'apaiser un peu sa sensibilité qui est très très forte. Et dès 2015, elle commence à poster des vidéos sur Instagram où elle chante, où elle joue du piano. Et ça l'amène à faire des petits concerts, des premières parties qui deviennent de plus en plus grands. Et elle sort quelques singles. Et 2023, le 31 mars 2023, elle sort son premier album, La Symphonie des Éclairs, sur le label Virgin Records. Et tout ça, c'est accompagné d'une grande tournée qui dure depuis plus d'un an, avec des salles de plus en plus grandes, des festivals de plus en plus grands, qui font que sa notoriété grandit super rapidement. Et son album, il parle de thèmes que je pense beaucoup de monde peut s'y retrouver. Ça parle d'amour, mais d'amour un peu compliqué, d'amour un peu triste. Ça parle du corps, ça parle d'addiction, et je pense que c'est quelque chose où beaucoup de monde peut s'y retrouver.
Moi, la première fois que je l'ai entendu, c'était à la radio et elle m'a surpris parce que j'avais jamais entendu quelque chose comme ça. Elle a un timbre de voix envoûtant, c'est très grave. Il y a une touche aussi d'ordinateur, d'autotune dessus qui donne vraiment un style très particulier. Et donc, c'était la chanson Les Dormantes, dont je vous propose d'écouter un extrait juste maintenant.
L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu au plus sensible par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux. Oh oui, l'amour. Ces gens-là sont du genre très beau parleur, ah, la guicheur, l'allumeur, le séducteur. T'auras beau être en train de chialer depuis des heures, monsieur te prêtera des erreurs, lui qui n'en fait jamais d'ailleurs. Tout se passe tout doucement dans ses murmures, le serpent, et après la colère, il vous jure que ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou, il en est sûr. Oui, ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou, il en est sûr. Ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou et j'en deviens sûr. L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu au plus sensible par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux.
Donc forcément, j'ai entendu ça, c'était hyper nouveau pour moi et ça m'a donné envie d'en écouter plus. Donc j'ai attendu la sortie de l'album, mais la sortie de l'album, ça a été un coup de cœur qui a été un peu progressif parce qu'au début, j'étais plus touché par les musiques avec beaucoup d'énergie comme Aspiration ou Tristesse, où il y a une influence de techno berlinoise avec des synthés modulaires et il y a vraiment une énergie très percutante dans ces morceaux qui moi j'ai beaucoup accroché à ça au début et c'est grâce à ça que j'ai commencé à beaucoup écouter cet artiste. Et au fur et à mesure, à force d'écouter l'album, j'ai été touché par les chansons plus calmes, les chansons plus pop qui structurent aussi l'album et qui je trouve sont vraiment magnifiques. Il y a des titres comme La Symphonie des Éclairs qui sont vraiment pour moi des morceaux très touchants. Et forcément, j'ai eu envie d'aller la voir en concert parce que je me disais que ça, ce serait sûrement une expérience incroyable, surtout que en voyant des interviews et sur les réseaux, je trouve que c'est une personne qui m'intéresse beaucoup et qui a l'air très 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 riche en termes de personnes quoi. On a envie de la connaître. Et donc je suis allé à Montpellier à la salle Victoire 2 et c'est un concert qui m'a beaucoup beaucoup plu. Elle a vraiment une présence scénique très forte. Elle danse énormément et puis elle insiste sur que le public se sente bien et ait envie de se lâcher avec elle. Et ça, je trouve ça hyper important. Il y a vraiment une proximité avec elle qui est impressionnante. Et j'ai adoré aussi les musiciens avec leur synthé modulaire qui, moi, ça m'a donné envie d'en faire. Ça m'a énormément marqué, ce concert. Donc, dans ce concert, il y avait des chansons originales de son album, et il y avait aussi des reprises. Ça m'amène à son actu musical, elle a sorti un EP vers Noël où, avec trois reprises, trois chansons qui ne sont pas d'elle, et c'est très beau, il faut écouter, je vous le conseille. Elle continue sa tournée, donc si vous avez envie d'aller la voir, il y a un concert par exemple en juin à 7, c'est une bonne idée, hein. En tout cas je recommande. On peut se quitter avec un morceau, mon morceau préféré, le titre Aspiration de Zao de Sagazan. C'est un morceau que j'écoute en boucle, enfin je pourrais pas trop expliquer pourquoi, mais il y a une alchimie, c'est très envoûtant comme morceau et il y a une énergie qui honnêtement, je peux pas m'en passer quoi, je peux pas m'en lasser.
Quelques aspirations et la spirale commence pour de l'inspiration. Madame caresse la démence, mais jamais ne s'arrête et jamais ne s'arrêtera cette fois dans la tête qui toujours la ramènera à sa jolie cigarette, à sa jolie cigarette. À c'est sa dernière cigarette, de celles qui font tourner la tête. Quelques aspirations et la spirale recommence. Pour de l'inspiration, je deviens
ne s'arrête jamais, ne s'arrêtera cette voix dans la tête qui toujours me ramènera à ma jolie cigarette, à ma jolie cigarette, c'est ma dernière cigarette, de celles qui font tourner ma tête.
MFM.
JMFM, voyage des lycéens vers de nouvelles vibrations musicales.
JMFM,
pour découvrir et redécouvrir des musiques multigénérationnelles. JMFM,
on vous embarque pour léviter sur nos ondes locales.
Retrouvez-nous mercredi de midi et demi jusqu'à 14h au CDI.
JMFM.
Rejoignez-nous.